Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre comment l'armée a pu mettre en place un logiciel de paye qui a accumulé les bugs au point de pousser de nombreux soldats à rendre l'uniforme. Ce logiciel s'appelle Louvois et Philippe Reltien va nous raconter les coulisses de ce fiasco. Il lui avait consacré une enquête en janvier dernier. Et puis nous entendrons le journaliste et historien Pierre Abramovici. Alors que la Côte d'Azur fait le plein de touristes en ce moment, eh bien nous verrons qu'à Monaco, les prix flambent au point d'atteindre 100 000 euros le mètre carré.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Croyez-vous qu'il est normal que les familles de militaires depuis 6 ans ne touchent pas le salaire? Tout travail mérite
réponse.
Salaire.
L'État est en défaillance,
monsieur le Premier ministre.
Madame a parfaitement raison. Cette abominable expérience de Louvois, nous allons mettre les moyens pour que ça marche.
Cette abominable expérience, vous l'avez entendu, les mots sont forts et ils sont prononcés par le Premier ministre, Édouard Philippe, alors qu'il est interpellé par une femme de militaire sur le plateau de l'émission politique de France 2, c'était en octobre dernier. Eh bien c'est justement parce que ces mots sont forts que nous avons voulu comprendre pourquoi, pendant près de 7 ans, de nombreux soldats français ont vécu l'enfer, non pas sur le terrain, mais avec leur fiche de paye et donc, par conséquent, dans leur quotidien. Alors pour bien préciser les choses, Philippe Reltien, déjà dites-nous, quand on parle de Louvois, on parle de quoi précisément ?
Louvois, c'était le ministre de la guerre de Louis XIV. C'est lui qui, le premier, a décidé de rémunérer les soldats avec une solde remise à chacun en main propre. Mais aujourd'hui, Louvois, c'est le nom du logiciel informatique de paye des militaires, un logiciel qui a été mis en service en 2011.
Oui, et qui depuis, donc, disons les choses, a fait un peu n'importe quoi.
Oui, très rapidement, des dizaines de milliers de soldats ont reçu des bulletins de solde loufoques. Au pic de la crise, il y avait 120 000 dossiers en souffrance. Certains n'ont reçu qu'une partie de leur solde. On a même vu des bulletins de paye avec 3 centimes d'euros seulement. Parmi ceux qui ont subi ça, il y a cet officier, père de famille, aujourd'hui criblé de dettes à cause de Louvois et qui a même un temps perdu sa couverture santé.
La mutuelle du militaire allait prélever sur le bulletin de solde. À partir du moment où ma solde n'était plus calculée, cette somme n'était plus prélevée. Donc la mutuelle m'a radié. Je ne l'ai jamais su. Sauf le jour où, une fois dans ma carrière, j'ai dû aller aux urgences à l'hôpital. Là, à l'hôpital, on m'a dit « Mais monsieur, vous n'avez plus de mutuelle ».
Oui, et qui dit plus de mutuelle dit plus de remboursement intégral pour ses frais de santé. Mais on a ensuite connu des situations carrément inverses, Philippe.
Eh bien oui, après avoir été pingre, Louvois s'est mis à gonfler les payes. Des militaires ont ainsi touché trop d'argent, parfois même sans qu'ils s'en aperçoivent. Louvois a même envoyé des paiements à des réservistes qui n'étaient plus militaires. Écoutez par exemple ce qu'a vécu Daniel, qui est maintenant en procès avec ses anciens patrons.
Je reçois un bulletin de solde qui me donne 200 euros. Alors là, stupeur, parce que en fait, je suis avisé de ce que l'argent va être directement viré sur mon compte. Je ne peux même pas m'opposer à recevoir l'argent puisqu'on va me le donner. Et effectivement, cet argent est arrivé sur mon compte. On est dans une situation d'angoisse parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je ne suis plus sous les drapeaux et on me donne 200 euros. Vous savez pas à quel organisme il va falloir le rendre. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre les papiers, prendre votre relevé de compte bancaire quand vous l'aurez et le mettre dans le dossier pour le tribunal administratif. C'est tout.
Oui, parce qu'évidemment, l'armée, elle n'a pas l'intention de laisser filer l'argent qu'elle a versé en trop. Elle a donc commencé à poursuivre ses soldats, Philippe, pour leur demander de rembourser ces trop perçus.
Oui, parce que ça représente quand même au total 545 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Le ministère de la Défense a donc monté à Nancy une structure de recouvrement des trop versés. Et près de 6000 contentions ont été portées devant la commission de recours militaire, qui est un passage obligé avant de déposer un recours devant un tribunal administratif civil.
Et alors, résultat, l'armée a récupéré son argent ?
Eh bien, une grosse partie en tout cas. On en est autour de 360 millions d'euros remboursés. Il resterait 3000 cas à régler, mais l'état-major a tout de même laissé filer plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il n'a pas réclamés.
Laissé filer, pourquoi donc ?
Eh bien, notamment parce qu'il est aussi arrivé qu'on facture sur des fiches de paye des sommes qui, en fait, n'ont jamais été versées.
Attendez, vous êtes sérieux,
hein ? Eh oui, on atteint là des sommets kafkaïens, comme l'explique Jacques Bessy, un ancien gendarme qui est aujourd'hui à la tête de l'association ADEF Dromil qui défend des dizaines de militaires.
Il y a eu des trop versés, effectivement, qui ont été payés. Il y en a eu même qui n'ont pas été payés, mais que le logiciel a comptabilisé comme trop versés. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 500 millions qui étaient partis dans la nature. À ce jour, il y en aurait 344 millions qui auraient été recouvrés. et 78 qui ont été abandonnés parce qu'ils ne pouvaient pas être justifiés clairement. Il s'agit certainement de traversées inventées par la machine.
Des traversées inventées par la machine. Ouais, difficile effectivement de détricoter ce genre de situation. Et tout ça, il faut le préciser, Philippe, n'a pas que des conséquences financières, ça génère aussi un véritable stress.
Oui, et pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter cette mère célibataire qui a quitté l'armée après y avoir passé 15 ans. Elle a longtemps conservé l'argent qu'on ne lui réclamait pas, en signalant qu'elle était prête à le rendre. Mais comme pendant 2 ans, on ne lui a rien demandé, eh bien, elle a finalement acheté un appartement. Et là, patatras, elle reçoit une lettre lui réclamant 36 000 euros. Et depuis, elle vit dans l'angoisse.
Quand j'étais militaire, sincèrement, ça me faisait pas peur de partir au front. Mais je suis maintenant beaucoup moins bien dans ma tête avec Louvois. La peur d'aller au courrier quand vous avez 37 000 euros à payer ou quand vous vous dites qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Puis même, j'ai pas envie de les payer là. Je suis dans une situation où je ne pourrais pas.
Ouais, je ne pourrais pas. Et des exemples comme ça, Philippe, il y en a à l'appel.
Oui, jusqu'à fin 2013, les cas se sont multipliés, touchant tous les grades dans l'armée de terre, sauf les généraux, qui eux sont payés par un autre logiciel qui fonctionne correctement. Mais en bas de l'échelle, ceux qui partent en mission à l'extérieur, eux, subissent la pression, explique encore Jacques Bessy.
C'est les petits qui trinquent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément accès à l'information, ceux qui n'ont pas un niveau d'instruction qui leur permette d'écrire, d'engager des recours, de lire correctement leur bulletin de solde. Ceux-là, la plupart du temps, ils ont payé. Et ceux qui résistent, eh ben, c'est ceux qui avaient un petit grade, hein, qui étaient sous-officiers, officiers subalternes, voire officiers supérieurs, et qui ont eu les moyens de se défendre.
Oui, ceux-là se défendent d'autant plus qu'ils vivent par ailleurs une situation un peu paradoxale parce que d'un côté, on leur demande de rembourser les trop-perçus dus à Louvois, mais de l'autre, ils doivent s'acheter du matériel parce que celui de l'armée laisse parfois à désirer.
Oui, alors ça, c'est ce que m'a raconté Élise. Son mari doit bientôt partir au Sahel et pour s'assurer qu'il sera bien en sécurité, elle a dû engager effectivement des frais.
On a dû acheter plusieurs paires de chaussures de marque américaine, à peu près 200 euros la paire de chaussures, parce que tout simplement les chaussures fournies par l'armée française ne tiennent pas le choc. Les soldats ont fini par mettre des bouteilles en plastique coupées en deux en guise de semelle sous leurs chaussures. On a acheté des bandoulières de FAMAS pour le confort, des gilets pare-balles américains ou allemands, plusieurs treillis parce que le treillis fourni par l'armée française n'est adapté qu'en combat en Centre-Europe. Et on a acheté des sacs, pareil, américains, parce que les sacs français ne sont renouvelés que tous les 3 ans. Donc si vous avez votre sac troué, il faut bien acheter un sac.
Un sac pour pallier les carences de l'armée. Mais quand on entend ça, Philippe, on se demande comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de contestations, qu'à part quelques manifestations de femmes, de militaires, tout ça n'ait pas fait plus de bruit.
Eh bien, parce que dans l'armée, on est formé à l'esprit de corps, à la discipline, au silence et à tout prendre. Beaucoup se disent aussi que, malgré tout ça, mieux vaut être à l'armée dans ces conditions que dehors, au chômage. C'est en tout cas ce qu'a remarqué Daniel, l'ex-réserviste que j'ai rencontré.
Ne perdez pas de vue quand même que nous sommes dans un pays où le plein emploi est un peu lointain et que le caporal sous contrat, eh bien, il est bien content d'avoir ses 3 à 5 ans pendant lesquels il ne va pas aller pointer à Pôle emploi. Et s'il peut retrouver un contrat ensuite et devenir caporal-chef pour encore 4 ou 5 ans, histoire de faire ses 15 ans jusqu'au bout, eh bien, il va essayer de le faire. Et pour une somme relativement modique, il se dit « c'est pas grave, on n'ira pas à la pizzeria samedi soir ». Mais au moins, je suis tranquille, j'ai pas de soucis avec mon chef de corps, j'ai pas de soucis avec l'administration comptable. Et c'est très triste à dire, et je le dis avec peut-être avec le regard de l'officier, mais on a joué sur cette bonne volonté et sur cette discipline de beaucoup de militaires.
Ouais, sous-entendu, on aurait sous-estimé le problème parce qu'on savait au fond que la résistance serait faible. Et qu'est-ce qu'on répond à ça du côté de l'état-major ?
Eh bien, on cherche à relativiser. On reconnaît qu'il y a bien eu de sérieux dysfonctionnements, mais le contrôleur général des armées, Jean-Paul Bodin, explique que tout ça est en train de rentrer dans l'ordre.
Quand on regarde le volume des recours, à la fois les recours gracieux et les recours devant la commission des recours des militaires, ces recours baissent considérablement. Donc ça veut dire que les personnels savent très bien que les sommes en question, elles leur ont été versées sans qu'elles leur soient dues, et ils l'admettent. Et je vous dis, dans les situations les plus délicates au point de vue social, il y a eu des abandons de la part de l'État de sa créance. Donc il n'y a pas de raison d'avoir une autre attitude en la matière.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu comment Louvois déraillait, comment ses bugs ont débouché sur des situations intenables pour de nombreux soldats. Maintenant, essayons de comprendre comment on en est arrivé là, Philippe. D'abord, qui a eu l'idée de le fabriquer, ce logiciel ?
En fait, l'idée a germé il y a une vingtaine d'années, quand l'armée s'est professionnalisée. Le gouvernement se dit que c'est le bon moment pour harmoniser le système de paye des militaires et pour le relier à celui de tous les fonctionnaires. C'est ce que rappelle Patricia Adam, qui est l'ancienne présidente de la commission de la défense à l'Assemblée nationale.
La volonté de l'État était d'avoir un logiciel pour l'ensemble des fonctionnaires, dans lequel on voulait aussi que rentrent les militaires. En 96, volonté d'aller vers un système unifié qui permettrait d'établir les soldes. Bon, voilà. Le problème, c'est que la condition militaire est très différente du statut d'un fonctionnaire. Et 2006, Alliot-Marie dit « on arrête, la condition militaire justifie un logiciel à part entière ».
Et ce logiciel, donc, ce sera Louvois.
Oui, mais ça va se faire par étapes. On fait d'abord appel à une société extérieure qui s'appelle Sopra pour le concevoir, mais les militaires vont assez rapidement l'écarter pour reprendre le projet en direct. Et il faudra attendre 2011 pour que les choses soient enfin mûres. Parce que, à ce moment-là, avec Nicolas Sarkozy aux commandes, l'État cherche à faire des économies. Et notamment sur le dos du service de la paye des armées, comme le rappelle encore Patricia Adam.
Gouvernement Fillon, ministre de la Défense Hervé Morin. Tout le monde, et en particulier le ministère de la Défense, devait rendre des postes. Et là, bien évidemment, supprimer 750 postes tout de suite dans ce service, c'était du chiffre, c'était intéressant. Sauf qu'on n'a pas du tout mesuré les conséquences.
Oui, les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. Bon, maintenant, pourquoi ce logiciel n'a pas fonctionné, Philippe ? Pourquoi, dès le début, il accumule les bugs ?
Eh bien, parce que la paye des militaires, elle change tout le temps. Elle varie en fonction de la nature des missions, avec un système de 174 primes et indemnités différentes. Bref, c'était couru d'avance, explique Emilien Ercolani, journaliste spécialiste en informatique.
Imaginez qu'il faille mettre tous ces gens qui dépendent de 250 critères de paye différents, avec des primes différentes, qui changent tous les mois, qui évoluent en permanence en fonction des terrains, des missions, etc. Imaginez qu'il faille mettre tout ça dans une énorme base de données et qu'à chaque fois que quelque chose change, entre guillemets, des engrenages doivent se mettre en place afin de calculer la paye le plus facilement possible. Et ça, si c'est relativement simple sur le papier, c'est extrêmement compliqué à faire techniquement.
Ouais, compliqué à faire techniquement, mais on ne le savait pas ça avant de mettre en route cette machine infernale.
Eh bien si, un audit commandé en septembre 2010, alors qu'Hervé Morin était ministre de la Défense, avait déjà conclu que le logiciel était instable et comportait des défauts. C'est d'ailleurs pour cela qu'on avait gardé les personnels sous la main pour recalculer 20 000 soldes au cas où. Mais écoutez le témoignage d'un homme qui était au cœur de ce dispositif et qui tient à garder l'anonymat. Ces paroles sont donc lues par un journaliste. À l'écouter, on comprend mieux pourquoi Louvois était condamné à l'échec dès le départ.
Il y avait 150 points de contrôle pour les données rentrant dans Louvois. Mais pour tenir les délais, fin 2011, ils en ont activé 15 seulement. Ce qui fait que ça ne pouvait pas marcher. Et qui va trancher ? Tant que vous n'avez pas quelqu'un qui tape du poing sur la table et que vous n'allez pas voir le ministre pour parler de ça, rien n'avance. Cela veut dire que, sur plein de trucs, on a envoyé plein de données pourries dans un système qui était bancal. Non seulement le système calculait mal, mais en plus, les données n'étaient pas les bonnes.
Et résultat, Philippe, on assiste à des erreurs en cascade, y compris donc les plus hallucinantes.
Oui, encore aujourd'hui, par exemple, ça c'est le Dauphiné libéré qui l'a révélé, le chasseur alpin Arthur Noyer qu'on a retrouvé assassiné. Eh bien, pour Louvois, ce soldat était classé comme déserteur. Tout simplement parce que dans ce système,
Il n'existe pas de case à cocher pour les disparus.
Ouais, c'est dingue d'entendre ça. Mais vous disiez, Philippe, qu'on avait prévu de recalculer 20 000 payes à la main en cas de pépin.
Oui, mais on avait vu trop juste. Ce sont 50 000 dossiers qui ont dû être recalculés au printemps 2012. Il apparaît donc vite que l'homme a perdu le contrôle de la machine, comme nous le raconte cet ancien officier.
Avant, le chef militaire avait le pouvoir de résoudre le problème. Aujourd'hui, un chef militaire devient perdu. Il n'a plus le pouvoir de régler un problème administratif parce qu'on lui a enlevé ce pouvoir. Il y a un décalage entre l'outil militaire, ce que l'on nous demande, le devoir d'excellence et de réussite dans nos missions et dans nos opérations, et à côté, je ne sais pas si on peut placer un devoir de médiocrité d'un système de gestion administrative qui est intolérable.
Oui, c'est justement parce qu'il est devenu intolérable, pour reprendre ses propos, qu'en juillet 2012, on va chercher un pompier pour essayer d'éteindre l'incendie.
Oui, et ce pompier s'appelle Steria. C'est une société spécialisée dans l'informatique qui assurait déjà la maintenance de certains systèmes de l'armée depuis 2008. Steria va alors dépêcher un commando informatique, en quelque sorte, composé de membres dont certains, les experts, sont payés 1000 euros la journée. C'est alors un peu le branle-bas de combat, raconte notre témoin qui a vécu cette affaire de l'intérieur.
On a dit à Steria, on a besoin de vous pour aider les informaticiens de l'armée. Steria envoie alors une quinzaine de gars qui reprennent l'analyse du code, la méthodologie et commencent à corriger les problèmes. Donc, grâce à Steria, 3 ou 4 mois après le premier pic d'erreur, il n'y avait presque plus de problèmes de sous-paiement. Malheureusement, il y a un autre problème qui arrive alors et qui est beaucoup plus complexe. C'est le problème du surpaiement. À la fin 2012, vous n'aviez quasiment plus de solde à zéro, mais on commence alors à avoir des trop payés.
Oui, autrement dit, à vouloir régler un problème, on en aurait créé un autre.
Apparemment, mais à la décharge de Steria, il aura fallu tout apprendre de Louvois, car les militaires l'ont conçu avec des millions de lignes de code qui sont incompréhensibles pour ces personnes qui travaillent habituellement sur des logiciels du type de ceux qu'on trouve dans le commerce.
D'accord, mais tout de même, devant l'étendue du désastre, on ne met pas en place une sorte de plan hors sec?
Eh bien, le problème, c'est que le nouveau ministre, c'est-à-dire Jean-Yves Le Drian, ne mesure pas tout de suite l'ampleur de ce désastre. Parce qu'en dessous, on a tendance à minimiser les dégâts. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ex-députée socialiste Patricia Adam.
Quand Jean-Yves Le Drian a pris ses fonctions de ministre de la Défense, donc au mois de mai 2012, cela lui a été caché. C'est-à-dire qu'on a bien sûr, nous, parlementaires, interrogé le ministre sur cette question. Et l'état-major répondait au ministre, mais non, tout va bien, tout est sous contrôle. Quand ça a été découvert en 2012, très vite, la décision qui a été prise par Jean-Yves Le Drian a été de retirer ce dossier et de le confier à la Direction Générale de l'Armement, de façon à construire ce programme comme un investissement majeur, comme on le fait dans ce ministère.
Donc en clair, on signe l'arrêt de mort de Louvois et on décide finalement de mettre en route son successeur.
Exactement. Et on décide d'appeler son remplaçant du joli nom Source Solde. Mmh. Mais là encore, l'accouchement va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et il va se faire dans la douleur, comme nous le raconte notre source anonyme qui était au cœur du dossier.
On a d'abord recruté un type pour constituer une équipe projet et préparer un nouvel appel d'offres. Mais ça se prépare pas comme ça. Vous passez des mois à écrire un cahier des charges et finalement, le cabinet du ministre dit que le gars qui a été recruté, il faut le virer, qu'on va faire autrement et qu'on va s'organiser comme pour un programme d'armement. Mais un logiciel nouveau comme ça, il faut au moins 3 ans pour l'installer. Comme on prend la décision de le lancer mi-2015, au mieux, il sera prêt pour mi-2018, mais je pense que ce sera plutôt pour 2019 ou 2020.
Autrement dit, ça va prendre du temps. Mais qui a finalement été chargé de le conduire, ce projet?
Eh bien, 3 sociétés se sont mises sur les rangs. Celle de l'ancien ministre des Finances, Thierry Breton, Atos. Celle des Américains d'Accenture. Mais c'est finalement une 3e société, le français Sopra Steria, qui remporte l'appel d'offres. Parce qu'entre-temps, les 2 entités, Sopra et Steria, ont fusionné. Sopra Steria donc décroche un contrat de 130 millions d'euros sur 10 ans.
Mais dites-moi Philippe, Steria, c'était bien cette société qu'on avait appelée pour réparer Louvois juste avant les trop perçus?
Exactement.
Et Sopra, c'est pas celle qui avait travaillé sur le tout premier logiciel de l'armée qu'on a finalement abandonné?
Si, c'est bien elle.
Et on leur confie donc le nouveau marché?
Oui, alors c'est vrai que ça surprend certains haut gradés. Mais Sopra Steria finit par faire consensus au sein de l'état-major. Et Jean-Paul Bodin, le contrôleur général des armées, insiste, le marché a été attribué régulièrement.
On a donné notre cahier des charges, ensuite Des spécialistes ont examiné les propositions des entreprises. Il y avait trois groupements qui s'affrontaient. Bon, le groupement qui a été retenu sur la base de critères principalement techniques. D'ailleurs, les deux groupements qui n'ont pas été retenus n'ont pas fait de recours. Dans une procédure de marché public, si on n'est pas content, on fait un recours.
Ouais, donc c'est très clair, le successeur de Louvois sera bien mis au point par Sopra Steria. Alors, on semble repartir sur de bons rails, sauf qu'un grain de sable vient à nouveau gripper cette machine, Philippe.
Oui, et ce grain de sable s'appelle le prélèvement à la source. Parce que lorsqu'on commence à travailler sur ce solde, il n'en était pas question. Or aujourd'hui, il va falloir le rajouter au programme informatique. Et selon notre source anonyme, il va falloir rallonger les délais et alourdir la facture à cause de ce prélèvement.
Le remplaçant de Louvois n'a pas été conçu pour ça, parce que ça ne figurait pas dans le cahier des charges. Donc, si aujourd'hui on dit à Sopra, il faut rajouter au logiciel le prélèvement à la source, à mon avis, ça va leur prendre un joli délai supplémentaire et sans doute quelques dizaines de millions d'euros de plus. Alors, je ne peux pas vous dire si ça rajoute un an et demi ou deux ans, mais à mon avis, c'est au minimum un an.
Au minimum un an, ouais, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qu'on en dit au ministère de ce nouveau délai ?
Eh bien, que ça fait partie des aléas et que c'est classique quand on lance un nouveau programme informatique. C'est en tout cas la position que défend le contrôleur général des armées.
Quand le gouvernement décide, par exemple, le prélèvement à la source, il va bien falloir l'introduire. Le système, il n'est pas figé, il ne cesse d'évoluer. Délai à prévoir, c'est 1er janvier 2019 et a priori, aujourd'hui, on pense qu'on sera dans ce délai.
Oui, donc on risque bien d'avoir un an de retard, peut-être plus d'ailleurs, hein, si on en croit d'autres sources. Bon, mais maintenant qu'on a dit tout ça, Philippe, ce logiciel fou, Louvois, là, il aura fait perdre combien d'argent à l'État français ?
Eh bien, la facture est difficile à chiffrer, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. En tout cas, Jean-Yves Le Drian, lui-même, a reconnu qu'on a gaspillé l'équivalent de ce qu'on avait économisé en supprimant des emplois. Et de son côté, notre source anonyme considère elle aussi que cette opération est un énorme gâchis.
Pour sur ce solde, il faut compter grosso modo 130 millions d'euros sur 10 ans. Ajouter à ça le paquet de trop versés, 535 millions d'euros qui ont filé dans la nature. On va peut-être en récupérer 350 ou 380, ce qui fait quand même 150 à 160 millions de perdus. Donc 130 millions plus 160 millions de trop versés non récupérés, vous arrivez à la louche à 300 millions foutus en l'air.
300 millions foutus en l'air, un lourd bilan donc, et ce sans qu'on n'ait jamais sanctionné personne.
Non, c'est vrai, la Cour des comptes reviendra bientôt sur ce monumental échec. Peut-être posera-t-on alors la question des éventuelles responsabilités. Mais c'est vrai, on présente toujours Louvois comme un naufrage collectif. Et c'est effectivement ce que pense le contrôleur général des armées.
Je considère que la responsabilité est collective, c'est une responsabilité de l'ensemble des acteurs de la chaîne ressources humaines, de la chaîne solde et même de la chaîne politique. Je ne mets pas les politiques dans cette affaire, c'est des chaînes de décision d'une manière générale au sein du ministère.
Bref, c'est tout le commandement qui aurait failli, c'est ce qu'on dit en haut lieu. Mais ça, Philippe, les victimes, elles, ont du mal à l'entendre.
Oui, alors pour beaucoup, la lassitude l'a emporté déjà. Ils sont nombreux à rembourser l'armée après une transaction à l'amiable. Mais leur avocate, maître Aïda Moumni, a tout de même écrit à l'ex-ministre Le Drian pour lui demander qui était responsable, car elle ne se satisfait pas de la version officielle.
C'est Louvois qui a dysfonctionné, c'est pas moi. Quelque part, quand vous lisez les mémoires du ministre des Armées, c'est ce qui est expliqué. Et là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le ministère des Armées aurait dû répondre de ces dysfonctionnements. La hiérarchie a trahi les subordonnés.
Trahi, c'est un mot fort quand même.
Oui, mais qui montre bien dans quel état d'esprit se retrouvent aujourd'hui de nombreux militaires. Car Louvois n'a pas fait que fragiliser des soldats qui ont demandé par ailleurs d'aller risquer leur vie sur les terrains de guerre. Il en a aussi dissuadé beaucoup de rester sous les drapeaux.
Oui, et certains vous ont d'ailleurs clairement dit, Philippe, qu'ils ont quitté l'armée à cause de ces mésaventures. Merci en tout cas pour cette enquête, enquête qu'on peut retrouver sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de Secret d'Info. Mais restez avec nous, où trouve-t-on des appartements à 100 000 euros le mètre carré ? Réponse dans quelques instants. De la pure Britpop, c'était Generation Lost du londonien L.A. Salami, extrait de son dernier album The City of Bootmakers.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Pierre Abramovici, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Monaco.
Ouais.
Vous êtes le seul Français habilité à consulter les archives de la Principauté.
En fait, même le seul tout seul.
Le seul tout seul. On va essayer avec vous de comprendre un peu comment fonctionne cette petite monarchie. Alors, on a coutume de dire que Monaco, c'est un paradis fiscal, on va commencer par là. Pourtant, aujourd'hui, quand on est un étranger, on n'a pas vraiment d'intérêt à y planquer ou blanchir son argent, comme on pourrait le faire aux Bermudes ou aux Caïmans. Ça a bougé de ce côté-là.
Surtout, Monaco, techniquement, n'est plus un paradis fiscal. Il l'a été. Sauf que depuis le début des années 2000, il y a eu un phénomène qui était particulier. D'une part, Monaco a été dénoncé comme paradis fiscal, notamment à l'OCDE.
FMI,
voilà.
Conseil de l'Europe.
Tout à fait, elle s'est retrouvée sur ce qu'on appelle la liste noire. Alors, laquelle liste noire, évidemment, posait un problème, c'est qu'en substance, ça veut dire que je ne collabore pas avec les autorités des autres pays, je laisse des sociétés s'installer sous couvert chez moi, je ne participe pas quand tout d'un coup ces sociétés sont dénoncées à quelque enquête que ce soit. Bref, c'était un blocage un peu similaire à celui de la Suisse.
Oui, il y avait un rapport parlementaire et Arnaud Montebourg était monté au créneau là-dessus, qui parlait de législation qui garantit l'anonymat des transactions, d'un casino sans contrôle, d'une coopération administrative et judiciaire internationale défaillante. Ça, c'était les années 2000.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, ce rapport a provoqué la colère du prince de l'époque, qui était vieillissant et qui allait mourir pas très longtemps après, mais qui a lancé le mouvement. C'est son fils, donc l'actuel prince souverain, qui effectivement a suivi et a continué le mouvement. En substance, d'abord, régler cette histoire, c'est-à-dire participer aux instances internationales, accepter de participer à la collaboration policière sur la question. Donc ils ont créé l'équivalent de Tracfin chez nous, ça s'appelle Secfin. Aujourd'hui, si j'ouvre un compte en banque en tant qu'étranger à Monaco, Secfin, par parenthèse, Tracfin, parce qu'ils collaborent ensemble, le sait. Donc Bercy sait exactement ce qui se passe à Monaco au centime près. Et par-dessus le marché, si je veux ouvrir un compte avec des sous en liquide, au-delà de 8000 euros, en substance, on m'interdit d'ouvrir le compte. Voilà. Deuxième point, il y a des pays comme la France, dans lesquels depuis 1963, depuis des accords communs entre les deux pays, historiquement, les citoyens français n'ont aucun avantage particulier. C'est-à-dire qu'ils payent des impôts, les entreprises payent des taxes, les contacts entre Bercy,
le lapsus.
Oui, c'est parce qu'en ce moment, j'ai écrit un livre sur Vichy.
Même pas révélateur, hein, il vaut mieux pas d'ailleurs.
je suis sur Vichy en ce moment. Donc, le contact entre Bercy et Monaco est permanent. Il y a des bureaux du fisc français sur place.
Donc, Monaco est une annexe de la France.
C'est une annexe de la France pour les citoyens français, au même titre que dans n'importe quel département. Pour ce qui concerne les Italiens et quelques autres pays, il y a des accords aussi. Et d'ailleurs, on dit que les Italiens vont payer des impôts bientôt. Donc, globalement, la principauté n'est plus un paradis fiscal pour les citoyens, pour l'évasion au fisc. Bien sûr, si je suis un citoyen chinois ou russe, je peux aller m'installer pour ne pas payer. Mais pour ça, il faut y vivre pendant 6 mois et être une sorte de résident permanent. Sinon,
Et là, en revanche, c'est un havre fiscal exceptionnel, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Il n'y a même pas d'impôt sur les bénéfices si vous réalisez plus de 75% de votre chiffre d'affaires à Monaco.
Voilà, mais
c'est quand même.
Oui, incroyable. Mais les pays se réduisent. C'est-à-dire, progressivement, les pays se réduisent. Et surtout, si on fait ça pour des raisons de pure fraude fiscale, maintenant, il y a coopération. En revanche, il y a ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale. Alors, c'est pas moral, mais c'est pratiqué, je le rappelle, en Europe, par le premier pays fondateur de l'Union européenne, de Luxembourg, par un pays qui s'est installé plus tard dans l'Union européenne, l'Irlande. Bref, l'optimisation fiscale existe. Aussi longtemps que l'optimisation n'est pas sanctionnée du point de vue juridique par personne, et qu'aucun État ne le souhaite, et qu'il y a en fait concurrence entre les États pour aller au plus facile et au plus, acceptable pour les investisseurs chez eux, on n'y est pas.
Mais on peut penser aussi qu'ils profitent de la France, puisque le système de la TVA leur est quand même très avantageux.
Mais ils ne profitent pas de la France, c'est un accord international.
Alors parlons de l'accord de 63, justement.
L'accord de 63 est la conclusion d'une série d'accords, qui sont des accords douaniers à la base. À partir du moment où la principauté est un État qui dépend très très directement de la France. Ça a été une sorte de protectorat pendant des décennies. Dès lors qu'il y a un accord douanier, ça veut dire que Monaco prélève des taxes sur les produits qui rentrent chez elle ou qui sont fabriqués par elle, et on lui rétrocède une part de cet argent prélevé au prorata d'un certain nombre de critères.
Sauf que ce prorata est très avantageux pour les monégasques.
Ce prorata est très avantageux pour les monégasques, mais ce depuis les années 50. Et quand il y a eu la crise franco-monégasque, ce qu'on a appelé entre nous la guéguerre ou la grave crise franco-monégasque entre le général de Gaulle et le prince Rainier, les accords qui ont suivi ont d'une part donc totalement verrouillé les Français, mais de l'autre côté ont pérennisé ce système dit du compte de partage, qui a fait que, basé sur la TVA, qui à l'époque était pour un ou deux ou trois produits, enfin presque rien, en 1967 s'est trouvé étendu à tous les produits, avec en plus des TVA très élevés, jusqu'à 33% pour certaines, le prince Rainier, qui était très 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 malin et qui était un authentique chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait créer des entreprises à 33%. Ce qui lui a permis d'obtenir des taux de TVA très élevés et donc un compte de partage très très favorable. Ce qui fait que quand Édouard Balladur est devenu ministre des Finances et qu'il a voulu remettre à plat le système, on lui a répondu « certes, mais dans ce cas-là, il faut déclarer la guerre à la principauté. C'est un accord entre deux États. »
Et pourquoi on le fait pas ?
Parce qu'il faut faire de la guerre à la principauté.
Non, mais sans parler de la guerre. Enfin, je veux dire, ça s'appelle un rapport de force. On n'est plus dans
la
guerre.
Mais il n'y a plus de rapport de force de la France. Le problème de la France...
Mais la question, c'est pourquoi la France tolère finalement de donner plus de TVA que nécessaire à Monaco, qui est quand même considéré comme le pays le plus riche du monde, rappelons-le, au détriment finalement de la richesse de la France.
Parce que la France ne peut pas faire autrement. C'est un accord international. Pour rompre cet accord international, il faut lancer des nouvelles négociations. Et il n'est pas question pour le moment, je pense, de négocier sur ce point-là.
Alors Pierre Abramovici, un mot aussi de l'immobilier qui atteint des sommets à Monaco.
Alors on atteint actuellement des sommes qui vont de 35 à 100 000 euros le mètre carré.
100 000 euros le mètre carré.
Ce qui est totalement invraisemblable.
Vous n'êtes pas trompé là ?
Non, du tout. Et ces chiffres viennent simplement de ce qu'il y a une clientèle prête à acheter ces appartements pour une raison précise, unique. Je m'installe à Monaco pour les pays qui sont encore possiblement fiscalement déduits. Je ne paye pas d'impôt sur le revenu, ni d'impôt sur mes sociétés si j'en crée sur place. Et dans ces conditions, je
paye. Il suffit d'être résident.
Pour certains pays, ça marche pas pour tous, comme je disais, pas les États-Unis, pas la France, pas d'autres
ça
pays.
Ça aussi qui est fou, c'est qu'on n'est pas logé à la même enseigne selon les nationalités. C'est un
du
peu
tout.
Bizarre. Ça.
Si demain les Italiens, par exemple, payent des impôts à Monaco, comme c'est prévu, semble-t-il, comme les Français, les Italiens richissimes s'en iront. ils ne paieront plus les sommes qu'ils payent pour pouvoir être résidents à Monaco. Le problème de la principauté
sur l'immobilier... Qui peut se payer un appartement à Monaco ?
Actuellement, les Russes. Actuellement, c'est la communauté russe qui grossit parce qu'elle a les moyens financiers de se payer effectivement des appartements à ce prix-là. Vous prenez le sommet de la tour dite Odéon, qui est la fameuse tour qui a provoqué un scandale à l'époque là-bas à Monaco. On atteint des sommes inouïes pour un truc qui est invivable en vérité. Personne n'a envie de s'installer même dans un 200 ou 300 ou 400 ou 1600 mètres carrés. Le plus cher du monde est là, 1600 mètres carrés au sommet de la tour. Personne n'a envie de payer ce prix-là.
Et on ne vient là que pour ne pas payer d'impôts.
Uniquement. Dans ces conditions, pour ces acheteurs-là, oui. Ce qui veut dire que si je suis par exemple un richissime russe et qu'on me propose un terrain à 20 millions d'euros avec une villa de rêve à côté et un parc de 10 hectares, et même avec une garde privée, j'irai pas parce que je paierai des impôts. Tandis que si je vais à Monaco, je préfère habiter dans une tour pas terrible, totalement isolée, avec rien autour, sans jardin, sans rien, sécurisé, mais je paierai pas d'impôts.
Sécurisé.
Ouais. Archi sécurisé. Comme je disais, la principauté est effectivement, sur son point fort, l'état le plus sécuritaire du monde, quasiment.
Bien, ben merci pour toutes ces explications. On y voit un peu plus clair, Pierre Abramov ici. Puis j'en profite pour rappeler, pour ceux que ça pourrait intéresser de poursuivre notre discussion, que vous êtes par ailleurs l'auteur de Monaco sous l'occupation, c'est pas la même période, mais c'est intéressant aussi, qui est paru aux éditions Nouveau Monde. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Jean-Baptiste Audibert qui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Brigitte Patient pour Regardez voir et elle recevra la photographe Lise Sarfati. Quant à moi, au nom de la cellule investigation de Radio France, eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche après-midi.